Ah oui, bien, très bien, merci. Chers amis, chers camarades, travailleuses et travailleurs, d'abord je vous souhaite une bonne fête, hein, bienvenue donc cet après-midi. Vous le savez, je pense, les élections européennes se déroulent dans 3 semaines, et je vous le confirme, parce que c'est difficile de le savoir au travers des médias, mais Lutte ouvrière sera bien présente dans cette élection. Vous allez donc pouvoir voter pour une liste ouvrière, pas pour des pauvres professionnels de la politique, pour des militants ouvriers qui ont à cœur, dans leur entreprise, de s'adresser à leurs camarades de travail et de les rassembler pour qu'ils se fassent respecter face à l'exploitation patronale. Vous allez pouvoir voter pour des militants ouvriers convaincus que notre camp doit retrouver la conscience de sa force et le chemin de la lutte collective, non seulement pour arracher de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail contre la rapacité patronale, mais aussi pour renverser le système capitaliste et en finir avec l'exploitation, les lois du marché, la concurrence et toutes les crises et les guerres dans lesquelles ils nous enfoncent. La perspective communiste révolutionnaire est plus que jamais une nécessité. Le capitalisme mène la société tout entière vers l'abîme. Regardez comment tout recule, ici, en France, alors même que le pays est riche, que les milliards s'accumulent dans les caisses patronales, alors que les profits et les dividendes ont explosé tous les records, alors que des PDG sont payés des millions, 36 millions par an, pour le PDG de Stellantis, Carlos Tavares. Eh bien, pour l'écrasante majorité des travailleuses et des travailleurs, les salaires n'ont pas suivi l'inflation. Le nombre de salariés payés au SMIC a même explosé. Mais on ne vit pas avec un SMIC, on survit. Par contre, il faut bosser, en faire toujours plus, accepter les horaires d'équipe délirants, les journées fractionnées, et on est censé tenir comme cela jusqu'à 64, 67 ans pour ceux qui n'ont pas leurs annuités. Quand on a le malheur d'être licencié et de se retrouver au chômage, eh bien, c'est la dégringolade financière et la pression pour accepter n'importe quel emploi sans quoi on est montré du doigt, accusé de ne pas vouloir travailler. Et puis, il y a tout le reste. Le fait qu'il est de plus en plus difficile de se faire soigner, d'accéder aux urgences hospitalières. Il y a le délitement de la vie dans les quartiers populaires. Le logement, l'éducation, les transports publics qui craquent par tous les bouts. Il y a aussi, bien sûr, le réchauffement climatique, dont on mesure de plus en plus les conséquences, en même temps que l'impuissance des gouvernants, que ce soit à l'échelle nationale ou européenne. Ils pratiquent tous la même politique, le 2 pas en avant, 3 pas en arrière, parce qu'il ne faut surtout pas gêner les affaires de nos fleurons économiques, comme ils disent. Et puis, il y a la menace plus brutale et définitive, peut-être celle de la guerre. Parce que oui, en plus de tout, la société s'enfonce dans des guerres sans fin, dans le nationalisme, le racisme, l'inhumanité et la barbarie. Alors, l'heure n'est plus au rafistolage. Nous n'inverserons pas le cours réactionnaire de la société en prenant ces problèmes isolément et en essayant de les régler petit bout par petit bout. Il faut remettre en cause la classe sociale qui dirige la société, la grande bourgeoisie, qui la domine du haut de ses multinationales. Il faut remettre en cause la logique qui régente le capitalisme, la privatisation des profits, l'accumulation du capital et du pouvoir à un pôle de la société, les lois du marché et de la concurrence, qui en plus d'être source d'un gâchis inouï, sont source de guerre. Alors si nous nous présentons dans ces élections, ce n'est pas pour prétendre améliorer l'Union européenne, ni pour discuter de savoir s'il faut sortir de l'Europe capitaliste pour nous barricader dans une France tout aussi capitaliste. Nous nous présentons pour affirmer que rien ne changera pour le monde du travail, sinon en pire, tant que la bourgeoisie sera aux commandes, et il faut que les travailleurs renouent avec la conscience que c'est à eux de diriger toute la société. Avec la guerre en Ukraine, la guerre est de retour sur le continent européen. La guerre des tranchées est de retour. Plus d'un siècle après la guerre de 1914, les scènes que l'on associe à la Seconde Guerre mondiale, les bombardements de villes, les alertes aériennes, les refuges dans les caves, sont le quotidien des Ukrainiens depuis 2 ans. À Gaza, les défenseurs du gouvernement israélien nous expliquent qu'ils mènent une guerre civilisée, parce qu'à l'inverse des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, l'armée israélienne utilise des moyens conventionnels, des bombes, des drones et même l'intelligence artificielle. Et tout ce degré de civilisation est en train de transformer Gaza en un champ de ruines. C'est en train de plonger la population dans la terreur, les dévastations et des souffrances infinies. Quand est-ce que ce bain de sang finira-t-il? Combien de morts faudra-t-il aux États-Unis pour qu'ils retiennent la main de leur allié Netanyahou? Restera-t-il seulement un immeuble debout à Gaza, un hôpital en train de fonctionner? Toutes ces tragédies se déroulent aujourd'hui, en 2024, alors que l'humanité n'a jamais eu autant de connaissances, de richesses et de moyens pour les produire, les faire circuler et les partager, alors que l'humanité n'a jamais eu autant de possibilités de vivre en harmonie. Et il y a de la place pour tout le monde sur cette planète. Il y a de la place en Palestine et en Israël pour que les deux peuples vivent côte à côte et même ensemble, ce qui est déjà le cas pour certains. Et bien sûr, que les Ukrainiens et les Russes peuvent vivre en bon voisinage et se mélanger. Cela s'est fait des décennies où personne ne se demandait s'ils se sentaient plus russes ou ukrainiens. Oui, cet avenir-là est possible. Mais cela nécessite d'en finir avec tous les fauteurs de guerre. Et à commencer par les plus puissants, par les plus importants qui gouvernent le monde, je veux parler des États impérialistes occidentaux, des États-Unis et des principaux pays européens, dont, bien sûr, la France. Poutine et Xi Jinping d'un côté, Biden et ses sous-fifres de l'autre, sont les deux faces d'une même pièce. Oh, les régimes russes et chinois sont d'infâmes dictatures qui écrasent la classe ouvrière sous un talon de fer. Et oui, ils sont prêts à user de la force pour conserver leur sphère d'influence. Mais exactement comme les puissances impérialistes occidentales, exactement comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, qui ne s'en sont jamais privés pour établir leur domination coloniale et impérialiste. Pour maintenir cette domination, ces mêmes grandes puissances n'ont cessé de dresser des peuples contre d'autres, comme ils l'ont fait en Palestine, de tracer des frontières artificielles un peu partout dans le monde, de mettre en place des gouvernants à leurs bottes et d'abattre les régimes qu'ils jugeaient indociles. Forts de leur pillage, ils ont acheté une certaine paix sociale dans leur pays et ils ont préservé chez eux une façade démocratique. Mais leurs manœuvres ont mis à feu et à sang le continent africain, où, quand on ne meurt pas sous les balles, on risque de mourir de faim. Et regardez ce qu'ils ont fait d'Haïti, par exemple. L'ordre que les grandes puissances veulent défendre, c'est leur droit au pillage. Et elles sont prêtes à le défendre par les armes. Et c'est ce qu'elles font en Ukraine aujourd'hui. Aujourd'hui, si les États-Unis et les États européens s'impliquent autant dans la guerre, ce n'est pas pour aider les paysans et les ouvriers ukrainiens. Ils y sont pour leurs intérêts. Ils mènent cette guerre pour affaiblir la Russie et pour finir d'asseoir leur domination économique, politique et militaire sur cette région. Rachat d'usines, d'entreprises, de terres. Vous savez, les fameuses terres noires d'Ukraine. Endettement auprès des banques occidentales. Une bonne partie de l'économie ukrainienne est déjà passée sous la coupe des capitalistes occidentaux. Et la guerre accélère le mouvement, en plus d'être une formidable entreprise commerciale pour tous les marchands de canons et pour tous ceux qui lorgnent sur la reconstruction du pays. Pendant que les affaires vont bon train, les Ukrainiens, souvent les fils de paysans et d'ouvriers, sont transformés en soldats et laissent une jambe, un bras, voire leur peau dans les combats. Alors non, les grandes puissances occidentales ne sont ni des puissances de paix, ni des garantes du droit des peuples. Elles mettent en avant le droit international et les principes de liberté et de démocratie uniquement quand ça les arrange, uniquement quand cela va dans leurs intérêts. Pour les Palestiniens, par exemple, Il n'y a jamais eu de droit international qui vaille. Et cela fait 75 ans maintenant que les grandes puissances regardent Israël, leur allié privilégié dans cette région, donc riche en pétrole et ô combien crucial pour le commerce international. Cela fait donc 75 ans qu'elles regardent leur allié bafouer les droits élémentaires des Palestiniens. 75 ans qu'ils s'accommodent de ce que l'État d'Israël opprime, colonise et chasse les Palestiniens. Et aujourd'hui, eh bien, ils laissent faire un massacre. Alors il nous faut prendre conscience que les principaux fauteurs de guerre sont chez nous. Ce sont nos dirigeants et ne les laissons pas nous mener à une troisième guerre mondiale. Les dirigeants de l'Union européenne se sont longtemps vantés d'avoir assuré la paix sur le continent européen. Il faut monter des guerres pour leurs intérêts un peu partout dans le monde. Et ils ont contribué à alimenter la guerre en ex-Yougoslavie. Mais parce qu'ils ne s'entretuaient pas, ils se disaient pacifistes. Aujourd'hui, changement de cap. Ils sont tous ouvertement va-t-en-guerre. Un des grands sujets de cette campagne européenne, c'est la participation collective à l'effort de guerre en Ukraine. C'est l'Europe de la défense et la transformation de l'économie européenne en économie de guerre. Ils sont loin d'y parvenir. Car si tous les pays européens se réarment, c'est en ordre dispersé. Et comme d'habitude, chacun pour soi, parce que l'unanimité contre la Russie ne supprime pas les rivalités qui existent entre la France, l'Allemagne, l'Italie et les autres. L'Allemagne, par exemple, elle n'achète pas d'avions Rafale à Dassault, mais des F-16 américains. Tandis que la France n'imagine pas acheter de chars allemands Léopard. Il faut que ce soit du « made in France ». Parce que, bien évidemment, les marchands d'armes tricolores exigent l'exclusivité. Quoi qu'il en soit, pour nous, cela ne change rien. Que la défense et l'armée soient placées sous l'égide de la France, de l'Union européenne ou des États-Unis au travers de l'OTAN, il faut refuser de se laisser entraîner dans des guerres décidées par des dirigeants et des états-majors qui ont montré qu'ils étaient les ennemis du monde du travail. Tant que la population ouvrière ne peut pas elle-même contrôler les buts et les moyens de la guerre, cette guerre se fera contre leurs intérêts et pour ceux de la bourgeoisie. Alors s'ils veulent nous embrigader, ce sera pour que l'on meure pour leur profit. Ce sera pour que l'on défende leur ordre impérialiste, infâme, meurtrier et barbare. Alors pas un homme pour la guerre des capitalistes, pas un sou de plus pour les marchands de canons. De l'argent, il en faut pour les salaires, pour la santé, pour les écoles. Ceux qui, comme Macron ou Glucksmann, essayent de vanter les vertus de l'Union européenne, la décrivent comme un, je les cite, « partenariat politique et économique ». Vous remplacez le mot « partenariat » par « foire d'empoigne entre brigands » et là, oui, vous êtes plus proche de la réalité. L'Union européenne, comme l'État français, est une institution construite par et pour les capitalistes. Ce sont deux institutions au service du grand capital et de sa guerre économique. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne est une juxtaposition d'égoïsmes nationaux. La volonté de construire un marché européen pour ne pas étouffer dans son petit marché national n'a jamais fait disparaître la concurrence entre les groupes européens et leur État. Derrière les beaux discours de von der Leyen, de Scholz ou de Macron sur l'Europe forte et unie, il y a une surenchère de subventions et de dumping fiscal pour attirer les investisseurs. Il y a des batailles incompréhensibles pour le commun des mortels sur la façon de fixer le prix de l'électricité qui est devenu un facteur d'attractivité des entreprises. Et pensez qu'en 75 ans de construction, ils n'ont même pas réussi à se mettre d'accord sur la taxation des cigarettes et de l'essence. Non, l'Union européenne n'est pas une véritable union. Elle est tout sauf l'union fraternelle des peuples européens. C'est une union qui pérennise les inégalités et les rapports de domination entre les pays riches d'Europe de l'Ouest sur ceux les plus pauvres de l'Europe de l'Est et du Sud, comme la Grèce. Et c'est une union qui, loin de faire reculer les idées nationalistes, les a partout renforcées. Il y a désormais des clones de Le Pen, de Bardella et de Zemmour un peu partout. Il y en a en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Autriche, en Italie. Et puis, dans tous les pays membres de l'Union européenne, les idées souverainistes, protectionnistes et chauvines font un retour en force. Ici, en France, malgré les rivalités politiciennes, un point fait consensus entre tous les candidats. La souveraineté française, qui est menacée par les traités de libre-échange. En chœur, avec le patronat, ils parlent tous de nos entreprises, de notre agriculture, de notre industrie, de notre souveraineté sanitaire et énergétique. Mais qui y a-t-il derrière ce « nous » Quand est-ce qu'un ouvrier d'Eurocopter, d'Airbus, d'Honnête, de Lactalis, de Carrefour ont leur droit, ont leur mot à dire sur la marche de leur entreprise? Est-ce qu'ils ont un mot à dire sur leur salaire, sur leurs conditions de travail? Est-ce qu'ils peuvent seulement exprimer leur avis sur ce qu'il faut produire et comment le faire? Bien sûr que non. Parce qu'il ne s'agit pas de nos entreprises, mais de celles de patrons et d'actionnaires. Et ils en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent y compris les vendre à un concurrent, les liquider si elles leur rapportent plus, comme l'a fait Naouri avec Casino dernièrement. À leurs yeux, les travailleurs ne sont que des pions qu'ils peuvent exploiter, déplacer ou jeter. Alors, la souveraineté française qu'ils nous vendent, c'est la souveraineté des Peugeot, des Muliez, des Bolloré, des Michelin, des Leclerc. C'est le fait que la grande bourgeoisie, les actionnaires et les spéculateurs qui ne jouent aucun rôle utile dans la production décident de tout, alors que les travailleurs que nous sommes, qui faisons tout le boulot, nous ne décidons de rien. Alors ne marchons pas. La souveraineté, les travailleurs ne la trouveront que dans la révolution de la classe ouvrière internationale, c'est-à-dire quand ils auront exproprié la bourgeoisie, quand ils auront pris le pouvoir politique et quand les travailleurs dirigeront eux-mêmes la société à tous les niveaux, au niveau de la France, de l'Europe et du monde. Dans cette campagne, les frontières sont défendues jusqu'aux partis de gauche qui sont pour plus de protectionnisme, en expliquant qu'il faudrait craindre la concurrence des ouvriers mal payés d'Ukraine ou de Moldavie. Mais c'est précisément parce que le grand patronat a toujours mis en concurrence les exploités des différents pays que les travailleurs ont construit à plusieurs reprises des internationales. C'est pour cela qu'ils ont cherché à coordonner leur lutte et leurs revendications, comme lors de la journée du 1er mai. C'est pour cela que tous les partis ouvriers, lorsqu'ils étaient encore révolutionnaires, étaient internationalistes. L'internationalisme de la classe ouvrière, le fait que tous les travailleurs du monde ont les mêmes intérêts, est une réalité sociale et humaine depuis toujours. Eh bien, il y a quand même des politiciens, je le redis, y compris à gauche, pour brouiller cette conscience, avec des idées comme le produire français. Mais il suffit de regarder chacun d'entre nous, l'entreprise dans laquelle on travaille. Aucun d'entre nous ne produit français. À toutes les étapes de fabrication, on a recours à des produits et des matières premières qui viennent des quatre coins du monde. Et on travaille avec des camarades qui viennent eux-mêmes des quatre coins du monde. Alors non, on ne produit pas français. En revanche, on produit bien sous les ordres des capitalistes, avec l'organisation qu'ils ont décidée et qui est à l'échelle internationale. On peut la trouver stupide et aberrante, et elle l'est, par bien des aspects. Mais si on veut en construire une autre, qui corresponde aux intérêts de tous les travailleurs du monde et aux intérêts de la planète, il faut exproprier les actionnaires, leur enlever le pouvoir et prendre nous-mêmes le contrôle des multinationales. Tout le reste est du baratin qui ne conduit qu'à mettre les travailleurs à la remorque de la bourgeoisie. L'idée de l'Europe unie et sans frontières, où l'on pourrait circuler librement de l'Atlantique à l'Oural, de la mer du Nord au Bosphore et à la Méditerranée et s'enrichir de la diversité des cultures est une idée fantastique. Le morcellement de la planète, la persistance et même la multiplication des frontières et du nombre d'États font partie des aspects les plus réactionnaires du capitalisme. Parce que la puissance des forces productives a dépassé depuis fort longtemps ses limites posées par les frontières. L'avenir, même pour les peuples opprimés, n'est pas à la création de nouveaux États, mais à l'unification à l'échelle de continents entiers. Alors oui, notre perspective est bel et bien celle d'une Europe unie et sans frontières. Plus même, nous aspirons à un monde uni et sans frontières, où chaque être humain pourra dire « Mon pays, c'est la Terre !» Ma patrie, c'est l'humanité. Ce nouveau monde ne pourra naître que sous l'impulsion d'une nouvelle révolution. En son temps, la Révolution française a fait tomber de nombreuses frontières. Eh bien, la Révolution prolétarienne pourra toutes les abattre. Parce qu'en plus de supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme, eh bien, elle pourra supprimer la domination d'un pays sur les autres pays. Alors, notre conviction, c'est que la véritable union de l'Europe, de tout le continent, sera impulsée par une révolution des travailleurs ou elle ne sera pas. Les États-Unis d'Europe seront socialistes ou ils ne seront pas. Les élections au Parlement européen ne sont qu'une péripétie. Mais dans cette période où les démagogues ont micro ouvert et cherchent à diviser le monde du travail, elles nous offrent la possibilité de montrer qu'il y a des femmes et des hommes qui ne mangent pas de ce pain-là. Des femmes et des hommes qui ne se découragent pas et se réclament des intérêts des travailleurs et de la perspective communiste révolutionnaire. Cette campagne nous permet de propager ces idées bien au-delà de nos rangs. C'est aussi un appel pour que d'autres travailleuses et travailleurs nous rejoignent pour construire un parti de travailleuses et de travailleurs. Pas un parti de politiciens qui demandent à leurs électeurs de voter en expliquant qu'ils s'occuperont de tout une fois élus. Il faut un parti de travailleuses et de travailleurs présents dans les entreprises, dans les quartiers populaires, en permanence, et capables de rassembler dans les périodes de lutte comme dans les périodes de recul. Il faut un parti de travailleurs conscients d'avoir à changer les choses par eux-mêmes, parce que c'est toujours d'en bas, du petit peuple, des travailleurs, des exploités, que sont nés les véritables changements de société. Les opprimés et les exploités peuvent endurer bien des souffrances et vivre au milieu des horreurs, parfois des mois, des décennies entières. Il finit toujours par y avoir, malgré tout, des révoltes et même des insurrections. Alors, oui, il faut un parti qui ait cette conviction révolutionnaire et qui regroupe des femmes et des hommes conscients que leur classe aura tôt ou tard le pouvoir d'agir pour que la société prenne le chemin d'une société communiste. Ce parti ne doit pas se concevoir comme un parti national, mais comme un parti international des travailleurs, avec des ramifications dans tous les pays, comme le furent les premiers socialistes et les partis communistes quand ils étaient encore révolutionnaires. Et regardons-nous, nous avons tous, de par notre histoire, de par notre vie, des liens familiaux avec des travailleurs de très nombreux pays. Quand nous ne sommes pas nous-mêmes issus de l'immigration, nous vivons et travaillons avec des femmes et des hommes venus des quatre coins du monde, et bien ce sont ces liens-là qui nous aideront à construire l'international dont nous avons besoin. Alors, menons cette campagne avec l'enthousiasme et la détermination que nous apporte notre optimisme révolutionnaire. Chacun des votes qui se portera sur notre liste sera un pas vers la reconnaissance du programme de la révolution prolétarienne. Alors votons et faites voter pour la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Et maintenant, tous ceux qui veulent participer à la discussion, poursuivre la discussion autour de toutes ces idées-là, et bien écoutez, restez, avancez-vous. On va démarrer la discussion.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison qu'on en son protère, c'est l'éruption de la faim.
du passé, faisant table rase, vous laisse table debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international.